Aujourd'hui à l'émission, on va discuter résultats des midterms avec la chaire Raoul Dandurand.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui à l'émission, Marin Fortin-Bouteau, le coordonnateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Petite correction dans ce que vous allez entendre, il ne faudra pas comprendre Tim Ryan. Tim Ryan a perdu son élection au Sénat américain face à son opposant républicain Jed Evans, mais il faudra comprendre Tim Walz lorsque nous parlerons des représentants démocrates qui ont pu être élus en Ohio. On se retrouve juste après l'entretien.
Notre invité du jour, c'est Marin Fortin-Bouteau, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et surtout coordinateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Marin.
Bonjour Julien.
J'ai eu la chance de te rencontrer cette semaine, mardi soir, à la soirée électorale organisée par de visionnage des résultats des élections de mi-mandat américaines organisées par la chaire. Et je vous remercie déjà d'avoir pu m'inviter pour assister à ces soirées. C'était vraiment très intéressant. Ça a permis d'échanger beaucoup sur les différents résultats et sur des résultats qui ont totalement été à l'encontre de la dynamique habituelle des midterms et qui continuent encore d'être à l'encontre, parce que c'est quand même assez drôle. On a commencé sur avant la soirée. Si on prend l'exemple, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur un peu une red wave, une vague rouge qui allait déferler sur les chances démocrates, pour qu'après, ça sera un tilt rouge, finalement, au courant de la soirée. Et ensuite, maintenant, on a différents agrégateurs et différents spécialistes et geeks des chiffres aux États-Unis qui disent que, on ne le sait pas, 220 représentants pour les républicains qui risquent d'être, c'est 220 pour les démocrates, du fait, par exemple, de certaines victoires au Colorado, où on a un peu la pro-Trump fou des armes, Lauren Boebert, qui devrait perdre dans le courant des prochaines minutes. Et surtout au Nevada, où on a des sortes de sweeps, des sortes de victoires démocrates qui permettent, étant donné que la composition de l'électorat est telle au Nevada, de pouvoir s'assurer, se dire que les démocrates pourraient l'emporter dans certains comtés en Californie, surtout des comtés dans la région d'Orange, qui sont normalement traditionnellement républicains. Donc on a vraiment une inversion totale de la dynamique habituelle des midterms, Marin.
Exactement. On sait que les élections de mi-mandat, c'est des élections qui sont généralement un référendum pour le parti au pouvoir. Donc, on s'attend historiquement à ce que ces élections, ou du moins on s'attendait à ce que ces élections-là soient négatives pour le parti de Joe Biden. Ouais. Et comme tu le disais, c'est complètement un renversement de ce qui était prévu, envisagé et prédit par les sondages à travers... l'entièreté là, du monde des sondages, c'est pas uniquement une firme en particulier, c'est vraiment un phénomène qui était généralisé.
Mais après, pour les sondages, il y a quelque chose sur lequel on avait pu discuter, que j'avais pu aussi discuter avec le directeur par intérim de ton observatoire, l'observatoire sur les États-Unis de la chaire Dandurand, Christophe Cloutier-Roy, c'est qu'on a eu dans les dernières semaines, et j'avais aussi pu en discuter dans une précédente émission, on a eu dans les dernières semaines une accumulation de sondages qui en fait sont des sondages partisans, parce qu'aux États-Unis, comparé chez nous, sur le côté francophone, au Québec et au Canada francophone, la grande firme de sondage Léger, qui est considérée comme neutre. Mais une grande majorité des firmes de sondage au Canada anglais, comme aux États-Unis, ont quand même un peu une affiliation politique. Hein. Dépend donné, est-ce que ça sera Angus Reid, est-ce que ça sera Ipsos, etc. Et autres, elles ont quand même une affiliation politique, affiliation corporatiste et tout. Quelque chose qu'on retrouve encore de manière plus forte aux États-Unis, avec un ensemble de firmes de sondage qui sont quand même très proches du Parti républicain et qui ont fait un harcèlement, un déboulage de différentes données, de différents sondages dans les dernières semaines pour faire en sorte que les agrégateurs indiquent un potentiel de vague républicaine et créent un narratif pour les médias qui disent « Regardez, ça va de nouveau être un référendum contre le parti au pouvoir et contre Joe Biden. » Et finalement, de nouveau, ces firmes se sont trompées et ça met aussi en cause la nécessité, plutôt la légitimité de ces sondages aux États-Unis.
En effet, et c'est quelque chose qui est intéressant à mettre de l'avant parce que, ou du moins c'est ce qu'on aurait pu penser de pas sous-estimer justement l'ampleur du mouvement républicain comme on avait pu le faire pour 2020,
c'est ça.
Comme on avait pu le faire pour 2016. Donc je pense qu'il y avait un peu aussi cette volonté-là des firmes de sondage de justement prendre un peu plus peut-être en considération le mouvement républicain et puis dans peut-être cette volonté-là d'avoir une vision plus juste. Ben, on s'est trompé du côté de ces firmes de sondage-là et quand même assez vraiment à l'inverse de ce qu'on a pu voir, c'est on a sous-estimé la performance du vote démocrate. On a même sous-estimé certains enjeux.
Ouais.
On sait que l'inflation, dans les dernières semaines, a été un enjeu très
mis. Mais finalement, l'avortement est revenu. L'avortement est revenu. Exactement. L'exemple parfait, c'est la Pennsylvanie, où c'était exactement le premier choix.
Oui, et même au Michigan, ouais, près de la moitié des électeurs électrices, c'était leur considération la plus importante.
Ouais.
L'inflation, pardon, reste la considération la plus importante pour ces élections-ci, mais beaucoup, disons pas dans la même mesure qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer, l'avortement a joué un rôle très important et le discours articulé autour de cet enjeu-là, l'articulation autour de
la démocratie aussi.
La démocratie, de oui, l'avortement, mais aussi mettre de l'avant tout ce qui est les enjeux sociaux.
Ouais.
C'est entré dans la stratégie, pardon, des démocrates. Et ça semble avoir tiré profit de ce qu'on peut voir actuellement.
On pourra traiter de la démocratie avec les échecs de Trump, ou plutôt des candidats soutenus par Trump plus tard dans l'entrevue. Mais pour revenir un peu sur le narratif et sur les échecs du narratif républicain, au-delà de l'inflation, c'est aussi l'idée de crime qui a été mise. La sécurité, vous en avez marre du crime, vous en avez marre des hausses de faits divers. Les républicains ont mis beaucoup l'accent sur ça, pour essayer d'aller chercher des switches, des victoires dans des comtés démocrates, surtout par exemple en banlieue de New York. Qu'ils n'en ont fait qu'une pour l'instant, où ils ont mis énormément d'argent, plus de 90 millions de dollars, pour déloger le chef de l'arme financière du bras armé financier du Parti démocrate, le chef de la campagne financière du Parti démocrate en banlieue de l'État de New York. Mais c'est des banlieues qui, finalement, au départ, peuvent switcher facilement républicains quand on sait la composition blanche, un peu à droite, même à l'extrême droite, détestant New York, voulant être proche de la voiture, de valeurs plus conservatrices de ces banlieues. Et ça avait été un miracle déjà qu'ils soient élus dans cet endroit-là. Et finalement, les républicains ont dépensé 90 millions de dollars dans un comté où ils auraient pu utiliser cet argent ailleurs, sur des idées plus proches de l'économie, au lieu de mettre le crime qui finalement n'a pas marché. L'autre exemple, c'est la Pennsylvanie, on en parle, le Michigan, l'Illinois, l'Ohio, dans certains comtés où les démocrates ont gagné alors que c'était des comtés républicains. Donc c'est quand même quelque chose. On parlait beaucoup du narratif républicain qui prenait dans la population, mais finalement, est-ce que le narratif démocrate commence à bien mieux prendre qu'on ne le pensait au départ?
Oui, puis je pense qu'il y a justement, comme tu mentionnais plus tôt, cette idée-là où ce qui était mis de l'avant par les médias, c'est ce qui était moussé, c'est cette vague rouge-là, elle laissait un peu moins paraître, c'est peut-être ce que les gens pensaient réellement. Comme tu dis, il y a des points qui ont été mis de l'avant, qui ont peut-être été moins considérés par l'électorat réellement. Je pense aussi qu'il y a une considération importante, une distinction importante à faire aussi, qu'il y a certains élus démocrates qui, oui, se sont fait réélire, mais c'était peut-être un peu plus serré que ce qu'on pensait. Puis il y a quand même, je crois, une prise de conscience, du moins d'une partie des démocrates, ça n'a pas été facile. On a vraiment fait un résultat meilleur que ce qu'on aurait pensé, mais on continue pas dans la même direction. On va travailler plus fort pour subvenir à la population. Je pense notamment à Tim Ryan, qui s'est fait réélire, qui écrivait sur Twitter, je traduis de manière libre, mais qui disait « Je vois pas ça comme une pousse dans le dos, mais je vois ça comme un coup de pied dans les fesses, cette élection-là, même s'il s'est fait réélire. » Je pense que ça témoigne un peu de ce sentiment-là, où il y a des enjeux, puis on a une collègue, Mme Valérie Beaudoin, qui était sur le terrain à Atlanta, qui beaucoup s'y revenait, qu'elle racontait sur Twitter, c'est que, en sortant dans les rues, les gens, ils disaient « Oui, les démocrates, mais l'enjeu de l'économie a été mis de côté, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils travaillent dessus. » Donc,
c'est ça.
Je pense vraiment que ces enjeux-là, au final, n'ont pas été pivots, mais on joue un rôle important et vont marquer la suite des choses, devront marquer pour le prochain cycle électoral et pour la suite des choses, parce que on en reviendra, j'imagine, sur la question de la démocratie, mais ça reste qu'il y a des enjeux super importants.
Totalement.
Que peut-être le Parti démocrate n'avait pas assez mis de l'avant et que les électeurs...
Ils vont devoir les mettre pour les prochaines élections.
Exactement.
Et surtout, mais d'un côté, ça leur offre une assise. On va se dire que les démocrates, malgré en ayant le vent contre eux, étant donné que c'est les mid-terms alors qu'ils dirigent la présidence, ont réussi à faire un score excellent pour normalement la dynamique normale de ces élections, pourrait peut-être conserver la Chambre des représentants, sont quasiment assurés, on va le savoir dans la journée avec la confirmation de la probable victoire démocrate au Nevada, de contrôler le Sénat, de continuer à contrôler le Sénat, et en plus ça veut dire que Raphaël Warnock l'emporte au runoff en Géorgie au mois de décembre, c'est-à-dire qu'ils auraient un siège de plus au Sénat, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc on va se dire, s'ils arrivent en plus à ajouter un discours économique, alors que, et aussi en plus, on voit que le vote jeune s'est concentré chez les démocrates avec des scores soviétiques pour cette campagne et que les républicains ont du mal à aller chercher le message à lier jeunesse et économie, les démocrates ont une fiche qui leur permet de se dire bah, on sait où aller pour 2024 et on devrait pouvoir proposer un message gagnant pour ces élections-là.
Je pense tout à fait que c'est quelque chose pour les démocrates qui peut être particulièrement pertinent, mais j'aimerais aussi mettre de l'avant qu'il faut pas non plus éliminer le Parti républicain d'avance. Ouais. Avec on l'a vu, la victoire de DeSantis, ouais, ça remet un peu en trouble. Il faut pas non plus mettre perdant d'avance Trump non plus, mais il pourrait y avoir des changements dans le parti. Il pourrait y avoir justement un regain, le phénix républicain modéré, dirait, pourrait renaître de ses flammes, et potentiellement ça pourrait mettre de l'avant le Parti républicain pour les élections. Il y avait monsieur Ben Shapiro qui mettait de l'avant que c'est un peu de la faute aux républicains d'avoir perdu ces élections-là, puis plusieurs médias ont mis de l'avant aussi que la faible qualité des candidatures qui étaient mises de l'avant par Trump, souvent des personnes inexpérimentées, mais qui arboraient un style assez flamboyant comme lui. C'est peut-être ça aussi qui a coûté l'élection aux républicains, on voit en anglais, on dit un split ticket, donc un vote divisé, où par exemple, on a un vote en Pennsylvanie moins important pour Dr. Oz que pour M. Mastriano, où il y a des gens qui ont décidé de voter au Sénat pour le partisan, pour le candidat démocrate,
qui n'ont pas voté pour Doug Mastriano. Pour rappel, si vous avez pu lire donc différents travaux de la chaire ou différents articles aussi avec lesquels vous avez pu collaborer avec votre serviteur, Doug Mastriano est quelqu'un qui a des positions, comment dire, tendance assez extrême. Donc pas quelque chose qui allait inciter beaucoup d'électeurs. Mais sur la question de la compétence des candidats des candidats républicains, c'est quelque chose sur lequel Mitch McConnell avait mis énormément l'accent, à ce qui paraît, en off, en arrière, parce qu'il faut quand même un peu pas le dire en officiel, pas le dire de manière expresse dans les médias, parce que sinon après on a Donald Trump qui va s'acharner contre vous. Néanmoins, Donald Trump commence déjà à s'acharner contre Mitch McConnell, c'est pas ça qui l'a empêché, mais il parlait d'absence de compétences de la part des candidats républicains et que choisis par Trump, et que dans un temps normal, si ça avait été des candidats normaux, normalement ils auraient gagné facilement certaines courses, et ils mettaient le doigt sur la course au Sénat en Géorgie avec Raphaël Warnock face à Herschel Walker. On a quelqu'un, Herschel Walker, où on voit que beaucoup de contusions et de commotions cérébrales ont probablement fait des dégâts, et ensuite on a tous les problèmes liés à ces polémiques, scandales, avortements et autres, qui sont quelque chose qui l'ont probablement fait perdre beaucoup de points dans les sondages et au moment du vote de mardi soir.
En effet, puis si on se met dans la peau, par exemple, d'un électeur ou d'une électrice en Géorgie, de se dire, j'ai pas envie que le Parti démocrate conserve sa majorité au Sénat, mais est-ce que j'ai envie de voter pour M. Walker, qui est, comme vous le dites, en plein milieu de scandale, on peut remettre en question sa compétence politique. Donc justement, ça crée une ambivalence qui, on pouvait peut-être penser que avec comment c'était moussé dans les médias, comment c'était moussé par Trump, c'était plus le parti qui allait gagner de cette ambivalence-là, puis que ces gens-là allaient voter pour le Parti républicain plus que pour la candidature. Et avec les résultats qu'on a actuellement, c'est peut-être l'inverse, puis que ces gens-là ont voté démocrate finalement.
Et même ces gens-là ont voté, comme on le voit, l'exemple parfait, c'est de nouveau un exemple comme la Pennsylvanie, mais des gens ont voté républicain Brian Kemp et ont voté démocrate Raphaël Warnock. Brian Kemp, c'était le candidat républicain pour le poste de gouverneur de Géorgie, et Raphaël Warnock, c'est le candidat démocrate pour le poste de sénateur de l'État. Et ça nous amène à la question, donc, démocratie, en fait, par derrière Donald Trump, Trump et son influence sur le parti, et ensuite en opposition Ron DeSantis. Mais sur la question de Donald Trump et de ses candidats qui ont été choisis, qui ont un peu qui ont mordu la poussière ou qui n'ont pas eu le triomphe qu'ils l'espéraient, ça nous amène à Carrie Lake en Arizona, et qui normalement les sondages disaient 10 points d'avance, 7 points d'avance pour Carrie Lake, une candidate opposition encore plus extrême que le Doug Mastriano qu'on parlait il y a quelques minutes, et une candidate qui explique que si elle gagne, qu'elle le disait hier soir à Tucker Carlson, que si elle gagne, elle réformerait les élections pour qu'elles soient justes afin que les républicains l'emportent toujours en Arizona, ça veut tout dire. Une candidate qui finalement risque de perdre et d'emporter aussi Ben Masters, avec elle dans la défaite. Ben Masters, c'est le candidat républicain au Sénat face au sénateur démocrate sortant Mark Kelly. C'est l'exemple parfait de l'échec des candidats choisis par Donald Trump.
En effet, puis c'est un peu ce qu'on peut voir sur ces élections-là, le mi-mandat 2022. C'est les premières élections générales depuis l'insurrection du Capitole le 6 janvier dernier. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que y a un rejet, il semblerait, de justement ce phénomène, cette idéologie que les élections ont été volées, les candidatures que Trump a beaucoup mis de l'avant, les candidatures fortes, peu ont réussi à se faire élire, ou du moins encore les résultats sont pas totalement officiels. Ouais. Et plusieurs candidatures fortes, par exemple, je pense à Mehmet Oz, qui ont été soutenus par Trump, etc., eh bien, ils ont concédé les élections à l'inverse de ce que Trump avait pu faire.
C'est ça.
Et ça témoigne justement un peu de cet enjeu-là démocratique, qui a été mis de l'avant aussi par le Parti démocrate, où c'est l'élection, peut-être pas d'une vie, mais c'est une élection très importante, alors que généralement, les élections de mi-mandat sont des élections avec en moyenne 20% moins de participation que des élections présidentielles.
Et finalement, on a vu une surmotivation de l'électorat, et des deux côtés, de l'électorat aussi côté républicain. Oui. Mais on a vu une sérieuse. Il y avait beaucoup de chiffres, par exemple, pour le vote par anticipation. On va prendre l'exemple en Géorgie, de nouveau, mais le vote par anticipation en Géorgie était plus fort ces élections-là que pour celles de 2018, et quasiment dans les mêmes eaux que celles de 2020, avec en plus une hausse du vote, que ce soit noir et jeune. Donc des gens qui, souvent, ont un peu plus de mal à aller voter que la population blanche, et surtout les populations blanches boomers, qui sont surmotivées pour le vote et surmotivé côté républicain. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important dans les chiffres à prendre en compte.
Exactement. Puis c'est ce qui explique aussi que cette vague, entre guillemets, rouge-là ne se soit pas concrétisée. Et on a vraiment ce sentiment-là que plusieurs candidatures qui avaient mis de l'avant, justement, que les élections avaient été truquées, ces candidatures fortes-là n'ont pas nécessairement réussi à remporter, ou ça a été moins serré que ce qu'on aurait pu penser. Je pense, par exemple, à Don Baldock, au New Hampshire, ou à Mark Finchem en Arizona pour le poste de secrétaire d'État. Les candidats qui avaient fait campagne sur cette idée-là que les élections avaient été truquées,
pour
antagoniser, utiliser éventuellement ça si jamais ils perdaient les élections pour dire que c'était truqué. On voit que c'est relativement peu répandu. Carrie Lake, justement, a mis de l'avant déjà. Il y a le contexte aussi du comté de Maricopa qui a eu des problèmes
de vote.
Donc, mais à part ce phénomène-là, il y a peu de candidatures fortes de ce mouvement-là qui ont réussi à rentrer au Congrès. Je regardais tantôt, dans les faits, là, il y a quand même à peu près peut-être 200 élus en tout et partout qui ont réussi à rentrer en position, ou du moins qui vont rentrer en janvier en position, mais il y a peut-être seulement un peu plus d'une trentaine de personnes qui ont réellement fait campagne là-dessus.
Sur le vol électoral.
Exactement. D'autres ont plutôt modéré, peut-être ont plus suivi la tendance que prenait le parti plutôt que réellement faire campagne dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment... Et ça, c'est dans les États-clés aussi. On regardait donc Pennsylvanie, Nevada, Géorgie, New Hampshire. Finalement, c'était moins serré que ce qu'on pouvait penser. Et le dernier qui m'échappe, mais
le Michigan aussi, on avait une majorité des candidats républicains qui faisaient campagne sur le Big Lie. Finalement, Gretchen Whitmer a tellement écrasé la campagne, les résultats, qu'elle a emporté avec elle le Parti démocrate, qui va contrôler toutes les chambres de l'État et tous les postes importants et névralgiques de l'État. Et les républicains, même ceux qui faisaient campagne majoritairement sur le vol électoral, la nécessaire réforme de la manière de voter au Michigan, en grande partie pour diminuer l'influence du vote noir et du vote des minorités dans les banlieues de Détroit et dans la ville de Détroit même, ils ont directement simplement dit bah, on a perdu, donc on n'a rien à dire et on n'a pas été volé. Ils n'ont pas pu le faire. La force des résultats les a empêchés de mettre en avant un possible vol.
C'est ça. Et surtout, en vue de 2024, ces candidatures-là auraient pu avoir des pouvoirs importants sur l'administration des élections.
Totalement.
Par exemple, Jean-François Finchem, parce qu'il est quand même assez prolifique à ce sujet-là, et qui voulait enlever le compte électronique des votes, faire un compte à la main, alors qu'on sait que c'est plus propice à qu'il y ait des erreurs. Le vote par la poste qu'il voulait pratiquement éliminer.
Qui allait chez Steve Bannon dire que lui, il arriverait à faire une coalition de secrétaires d'État républicains pour mettre en place le vrai vote tel qu'il devrait être, la fin du vol électoral. Finalement, toute sa coalition, presque, ils ont tous perdu, ou presque. Donc maintenant, il ne reste plus que l'ami de Steve Bannon, Mike Lindell, pour dire que les machines sont conscientes et votent automatiquement contre les républicains, même si les gens votent républicains dans les machines. Mais cher auditeur, vous avez énormément de théories conspirationnistes plus folles que les autres pour expliquer ces questions, et ils ont tous perdu.
Oui, et bon, comme je disais tantôt, il y a certaines candidatures qui ont réussi à gagner leurs élections, mais justement, c'est pas dans les États clés, dans les États qui vont être les plus importants pour 2024. Par exemple, la Géorgie, qui l'avait été en 2020, c'est M. Raffensperger qui a lui-même contesté à trouver des votes, comme Trump lui avait demandé en 2020, et a gagné sa réélection. Brian Kemp, qui avait tenu tête aussi.
À Instagram.
Exactement, et à Trump aussi. Donc, vraiment, ça, c'est très encourageant au niveau de la démocratie. C'est certain que, je pense qu'il faut prendre ça un peu avec des pincettes, puis... C'est sûr que là, on est un peu sur le momentum. DeSantis a gagné. Est-ce que c'est la fin de Trump? Toute cette mouvance-là, plus de la droite radicale du Parti républicain. Je pense qu'il faut prendre ça un peu avec des pincettes, mais pour l'instant, les résultats sont quand même encourageants pour la démocratie américaine.
Marin Fortin-Bouteau, toujours avec nous, coordinateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Et ça va être très intéressant, Ron DeSantis, de voir, parce qu'on parle de l'absence de vagues rouges, sauf à un endroit, en Floride. La Floride qui a été un sweep total républicain, avec des comtés que Hillary Clinton avait gagné en 2007 par plus de 30% des voix. Je parle des comtés de Miami, des comtés de banlieue, où on a des banlieues beaucoup avec une présence forte de minorités, en banlieue d'Orlando, les travailleurs de Disney World. Tous ces comtés-là, qui étaient normalement extrêmement démocrates, Ron DeSantis les a sweep. Et donc vient la question importante, c'est pas Ron DeSantis, il a une position pour 2024 qu'il va probablement utiliser. On va avoir Donald Trump qui va être là et qui lui a déjà promis sur Truth Social qu'il va sortir les vérités sur Ron DeSantis. Donc ça risque d'être assez drôle à regarder. Mais c'est surtout, est-ce que le modèle DeSantis, qui est le modèle trumpiste, mais avec le paraître d'un politique professionnel, est-ce que le modèle de DeSantis, extrême aussi, est exportable à l'entièreté des États-Unis pour que les républicains puissent espérer recréer un peu cette coalition qu'ils avaient pu faire, par exemple, sous Bush, par exemple?
Oui, je crois qu'en ce moment, DeSantis a raison de faire beaucoup parler de lui. Je crois que l'establishment du Parti républicain regarde le constat de Trump. 2018, des élections de mi-mandat qui ont été perdues, 2020 aussi, 2022, ça éveille peut-être une brèche dans la confiance que ce parti-là mettait de l'avant pour Trump. Comme vous le dites, DeSantis reste dans des positions assez conservatrices. On peut penser là à toute cette législation anti-woke qui mettait de l'avant.
Anti-gay, anti-trans,
exactement, pour les enfants,
l'avortement aussi.
Totalement. Donc, ça reste qu'il y a des propos assez forts tenus, mais la manière de les évoquer, beaucoup moins inflammatoire que le président, l'ancien président Trump. Donc, et aussi, il apparaît, en lendemain de ces élections-là, comme l'unique candidat qui pourrait affronter Trump, versus, par exemple, aux primaires de 2015 pour le Parti républicain, où on avait plusieurs candidatures
qui pouvaient être s'imposer,
envisagées, brailler la présidence. Est-ce que justement peut-être que ce vote-là plus modéré s'était fait diviser à travers ces candidatures-là et que Trump avait réussi à l'emporter grâce à cela? Là, on a un DeSantis qui est seul en tête dans ce parti-là, et si tout le monde arrive à se rallier derrière lui, il y a de réelles chances Et ça, c'est qu'il se lance, d'après
de
moi...
De pouvoir l'opposer face à Trump. Et la question aussi, c'est les électeurs de Trump, que ferait-il si DeSantis, et le choix. Parce que le problème pour beaucoup qui se va poser pour les Républicains, c'est que la plupart des électeurs de Trump, c'est un culte. Ils croient que Trump est l'envoyé de Dieu sur Terre, le choix de Jésus pour contrôler la politique et pour restaurer la foi aux États-Unis. Et il leur a donné, en plus, les juges à la Cour suprême d'extrême droite qui peut les aider sur les positions conservatrices. Mais alors, est-ce qu'ils arriveront à continuer à suivre le Parti républicain si Trump n'est plus le leader de ce parti? Parce que l'autre risque, c'est que Trump, aussi narcissique qu'il l'est, aussi narcissique, même maladif qu'il l'est, s'il perd, il décide de se présenter comme un candidat de third party, un candidat lui-même, et là, ça diviserait encore plus le vote. C'est l'une des grosses rumeurs, l'une des grosses possibilités qui a été mise en avant, par exemple, sur Fox News hier soir. C'était en mode, on va dire, le risque, si Trump n'est pas le choix des primaires, c'est qu'il décide de diviser le vote républicain par simple pure vengeance. Est-ce que c'est un risque pour le Parti républicain?
Complètement. L'impact historique d'un troisième parti dans l'histoire des États-Unis peut avoir quelque chose de très... Même si ces partis-là n'ont jamais réussi à réellement rallier la présidence, l'effet, comme tu le dis, de diviser le vote pourrait être très important. Encore là, DeSantis, en 2018, avait fait campagne sur l'endossement de Trump.
Ouais.
Donc, il vient de là un peu. Mm. Je pense que Trump a encore des cartes à jouer.
C'est ça. La bête n'est pas morte.
Exactement. Donc, c'est certain qu'il y a un momentum autour. Je pense que tout ça est encore assez incertain.
C'est ça.
Mais si aujourd'hui, on est l'establishment républicain, on est un parti républicain qui veut redevenir, entre guillemets, compétitif, gagner les élections, ben, ces électeurs-là du culte trumpiste, ils n'étaient pas là le 8 novembre.
C'est ça.
Ils ont pas... leur force, c'est pas concrétisé.
Totalement, et donc ça fait beaucoup de questions et qui vont être très intéressantes à suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois et même dans les prochaines années par rapport à la politique américaine. Mm-hmm. Ce sera un pli... Ou, tu voulais rajouter?
Oui, je vais juste rajouter. Puis aussi, on pourrait éventuellement mettre de l'avant la possibilité que l'effervescence qu'avait Trump résultait aussi d'un phénomène de bandwagon où justement, par sa popularité...
Il a emporté
plein d'électeurs républicains à voter pour lui. Et donc, justement, si DeSantis se propose comme une option plus modérée, peut-être que, en fait, le mouvement Trump deviendrait marginal, mettrait de l'avant, justement, tout ce côté-là conspirationniste.
Totalement.
Qui est, en guillemets, le côté
le
plus toxique de ce mouvement-là. Donc, ça pourrait jouer aussi là-dedans.
Ça va être très intéressant à suivre. Merci beaucoup, Marin Fortin-Bouteau, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de recevoir les gens de la chaire pour pouvoir faire l'éclairage sur la politique américaine. Merci beaucoup, Marin, et je te reçois quand tu le souhaites pour de nouveau discuter des États-Unis.
Parfait, merci beaucoup. Merci. À toi, Julien. Merci de m'avoir reçu.
Il n'y a aucun problème. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation.